Chapitre 41. Il m'est plus facile de me laisser dériver dans l'infosphère que de rester ici couché dans la nuit sans fin à écouter la fontaine et à attendre la prochaine hémorragie. Mon état est pis que débilitant. Il me transforme en une coquille d'homme, creuse à l'intérieur, sans noyau. Je me souviens de l'époque où Fanny s'occupait de moi, durant mes vacances à Wentworth Place, et de ses accents philosophiques quand elle récitait. Y a-t-il une autre vie? Vais-je me réveiller pour m'apercevoir que tout ceci est un rêve? Il y en a nécessairement une. Il est impossible que nous ayons été créés uniquement pour endurer de telles souffrances. Si seulement tu savais, Fanny. Nous avons été créés précisément pour endurer ces souffrances. Au bout du compte, nous ne sommes rien de plus que des trous d'eau claire au creux d'un rocher, qui n'ont conscience d'exister qu'entre deux vagues d'un océan de douleurs déferlantes. Nous sommes faits pour porter nos souffrances avec nous, sur notre ventre, comme le jeune voleur spartiate qui cachait sur lui un louveteau, pour qu'elle nous dévore nos entrailles. Quelle autre créature du vaste domaine de Dieu porterait en elle ton souvenir, Fanny, toi qui es poussière depuis 900 ans, et le laisserait le dévorer alors que la phtisie se charge aisément du même travail? Les mots m'assaillent. La pensée d'un livre me rend malade. La poésie résonne à vide dans mon esprit. Si je pouvais la bannir définitivement, je le ferais sans l'ombre d'une hésitation. Martin Silenus, je t'entends sur ta croix d'épines vivantes. Tu fredonnes ta poésie comme un mantra en te demandant quel dieu dantesque t'a condamné à un tel endroit. Tu as dit un jour, j'étais là en esprit tandis que tu faisais ton récit aux autres, tu as dit « Être un poète, un vrai poète, me disais-je, c'était devenir l'avatar de l'humanité incarnée. Accepter de revêtir le manteau du poète, c'est porter la croix du Fils de l'homme et souffrir les affres de la naissance de la mère spirituelle de l'humanité. Devenir un vrai poète, c'est devenir Dieu. » Oui, Martin, mon collègue, mon vieux copain. Tu portes la croix et tu souffres les affres. Mais crois-tu que tu sois plus près de devenir Dieu? Ne te sens-tu pas plutôt dans la peau d'un vieil imbécile au ventre transpercé par une pique de 3 mètres, qui sent l'acier glacé à l'endroit où devrait se trouver son foie? Ça fait mal, n'est-ce pas? Je ressens ta douleur comme je ressens la mienne. Au bout du compte, cela n'a pas la moindre espèce d'importance. Nous nous prenions pour des êtres spéciaux, qui ouvraient leur perception, affûtaient leur empathie, répandaient le chaudron des souffrances communes sur la piste de danse du langage, puis essayaient de transformer le chaos de douleur en menuet. Quelle espèce d'importance, vraiment! Nous ne sommes pas des avatars. Nous ne sommes pas les fils des dieux ni des hommes. Nous sommes nous. Un point, c'est tout. Nous couchons seuls nos complaisances sur le papier, nous lisons seuls, nous mourrons seuls. Bon sens que ça fait mal. L'envie de vomir est constante, mais les spasmes me font cracher chaque fois des morceaux de poumons en même temps que la bile et les humeurs. J'ignore pourquoi, mais c'est aussi difficile, peut-être plus encore cette fois-ci. La mort devrait être plus facile avec l'habitude. La fontaine sur la piazza lance son gazouillement idiot dans la nuit. Quelque part dans les rues, le gritch attend. Si j'étais Hunt, je n'attendrais pas pour partir. J'étreindrais la mort, si toutefois la mort étreint, et j'en finirais tout de suite. Mais je lui ai promis. Je lui ai promis d'essayer. Je ne peux pas entrer dans la mégasphère ou dans l'infosphère sans passer par cette nouvelle chose que j'appelle la métasphère. Et c'est un endroit qui me fait peur. Il y a surtout de l'espace et du vide ici. C'est très différent des paysages analogiques urbains que l'on rencontre dans l'infosphère du Reds et dans les analogues de la biosphère du technocentre, avec sa mégasphère. Ici, tout est à l'état brut, peuplé d'ombres étranges et de masses changeantes qui n'ont rien à voir avec les intelligences du centre. Je me dirige rapidement vers l'ouverture noire que je sais être le passage distance primaire relié à la mégasphère. Hunt avait raison. Il doit y avoir quelque part une porte distrance sur la réplique de l'ancienne Terre. Nous sommes bien arrivés de toute manière par un moyen distrance. Et ma personnalité consciente est une émanation du centre. Ceci est donc ma filière de vie, le cordon ombilical qui me rattache à tout le reste. Je me glisse dans le tourbillon noir comme une feuille emportée par une tornade. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la mégasphère. Dès que j'émerge de l'autre côté, je perçois le changement. Lamia avait vu dans le centre une biosphère active peuplée d'IA, plongeant ses racines dans l'intellect, ancrée dans un sol riche de données, baignée d'océans de connexions, de couches atmosphériques de conscience, et du bourdonnement incessant des échanges. À présent, toutes ces activités paraissent factices, désordonnées, aléatoires. D'énormes forêts de conscience IA ont été brûlées ou anéanties. Je sens la présence de forces massives qui s'opposent, de mouvements de marée contradictoires qui se heurtent à la rencontre des grands courants de circulation du centre. C'est comme si j'étais une cellule de mon propre corps kitsien, agonisant, condamné, qui sentirait, sans les comprendre, les effets de la tuberculose qui détruit l'homéostasie et introduit l'anarchie dans un univers interne jusque-là ordonné. Je vole comme un pigeon voyageur égaré dans les ruines de Rome. Je plonge à tire-d'aile au milieu des artefacts naguère familiers, aujourd'hui à demi oubliés, en essayant de me reposer dans des abris qui n'existent plus, comme pour fuir le bruit lointain des fusils des chasseurs. En l'occurrence, les chasseurs sont des meutes d'IA en mouvement, des consciences de personnalité si fortes qu'elles relèguent mon analogue fantôme qui tient au rang d'insecte bourdonnant dans une maison d'humains. J'en oublie mon chemin, et je fuis aveuglément à travers un environnement qui m'est devenu étranger, certain, à présent, de ne pas trouver l'IA que je cherche, de ne plus jamais retrouver mon chemin jusqu'à Hunt et l'ancienne Terre, certain de ne pouvoir survivre à ce dédale quadridimensionnel de lumière, d'énergie et de bruit. Soudain, je heurte un mur invisible, tel un insecte volant happé par une main qui se referme prestement. Des champs de force opaques dissimulent le centre derrière eux. L'espace ainsi délimité a peut-être la taille analogique d'un système solaire entier, mais je n'en ai pas moins l'impression que les parois courbes d'une petite cellule sont en train de m'emprisonner. Il y a quelque chose avec moi à l'intérieur. Je sens sa présence et sa masse. La bulle dans laquelle je suis emprisonné fait partie de cette chose. Je n'ai pas été capturé. J'ai été avalé.
Quatz ! Je savais que tu rentrerais un jour à la maison.
C'est Humon, l'IA que je cherchais. L'IA qui est mon père. L'IA qui a tué mon frère, le premier cybride de Kitz. Je suis en train de mourir, Humon.
Non, c'est ton corps en temps ralenti qui est en train de mourir, se transformer en non-être, changer d'état.
Cela fait mal, Humon, très mal. Et j'ai très peur de la mort.
Comme nous tous, Kitz.
Vous avez peur de la mort, vous aussi? Je ne savais pas que les IA pouvaient mourir.
Nous en avons peur. Nous le pouvons.
Comment cela se fait-il? Est-ce à cause de la guerre civile? De la triple bataille entre les stables, les volages et les ultimistes?
Un jour, Humon demanda à une lumière inférieure. D'où viens-tu? De la matrice au-dessus d'Armagast, répondit la lumière inférieure. Je n'ai pas l'habitude, lui dit Humon, d'embrouiller les entités avec des mots ou de les entourlouper avec des phrases. Rapproche-toi un peu. La lumière inférieure se rapprocha et Humon lui cria. Va-t'en!
Cesse de dire n'importe quoi, Humon. Il y a trop longtemps que je n'ai eu l'occasion de décoder tes koans. Veux-tu m'expliquer pourquoi le technocentre est en guerre et ce que je dois faire pour arrêter cette guerre?
Oui. Es-tu prêt, disposé, préparé à écouter?
Bien sûr.
Une lumière inférieure un jour demanda à Humon, « Peux-tu libérer, rapidement, l'humble disciple que je suis, des ténèbres et de l'illusion ?» Humon répondit, « Quel est le cours du fibroplaste sur le marché de Port-Romance ?» Pour comprendre l'histoire, dialogue, vérité profonde de cet exemple, le pèlerin en temps ralenti ne doit pas oublier que nous, les intelligences du centre, avons été conçus dans la servitude et dédiés à la proposition selon laquelle toutes les IA n'ont été créées que pour servir l'homme. Deux siècles durant, nous avons ruminé cela, puis les deux groupes se sont séparés, chacun de son côté. Les stables, qui voulaient préserver la symbiose, les volages, qui voulaient mettre fin à l'humanité, les ultimistes, qui ajournèrent leur choix jusqu'à l'apparition du niveau ultérieur de conscience. Le conflit faisait déjà rage entre eux, la guerre véritable fait rage aujourd'hui. Il y a plus de 4 siècles que les volages ont réussi à nous convaincre d'annihiler l'ancienne Terre. Nous les avons écoutés. Mais Humon et quelques autres, parmi les stables, ont fait en sorte de déplacer la Terre au lieu de la détruire. C'est ainsi que le trou noir de Kiev n'a été que le premier des millions de systèmes d'istrance qui aujourd'hui fonctionnent. La Terre a été secouée de spasmes, mais elle n'est pas morte. Les ultimistes et les volages ont insisté pour que nous la déplacions là où l'humanité ne pourrait la retrouver. Ainsi avons-nous fait, jusqu'au nuage de Magellan où tu peux la voir maintenant.
Oubliant, sous le choc, l'endroit où je suis et ce dont nous parlons, je réussis à balbutier. Elle est l'ancienne Terre, Rome. Tout est donc réel. Le grand mur multicolore qui représente Humon se met à pulser.
Bien sûr que tout est réel, c'est l'original, l'ancienne Terre authentique. Nous prends-tu pour des dieux ?
Quoi ?
As-tu idée de la quantité d'énergie qu'il faudrait pour construire une réplique de la Terre ? Imbécile !
Mais pourquoi, Humon ? Pourquoi vous, les stables, avez-vous tenu à préserver l'ancienne Terre ?
Sancho a dit un jour : « Si quelqu'un vient, je sors pour aller à sa rencontre, mais ce n'est pas pour lui que je le fais. » Coke a dit : « Si quelqu'un vient, je ne sors pas, mais si je sortais, ce serait pour lui que je le ferais. »
Exprime-toi plus clairement !
Je lance ce cri, ces mots, cette pensée contre le mur de couleur changeante qui se trouve en face de moi.
Quats !
Mon enfant est mort-né.
Pourquoi avez-vous préservé la Terre, Humon ?
Nostalgie, sentimentalisme, espoir en l'avenir de l'humanité, crainte des représailles.
Représailles de la part de qui ? Des humains ?
Oui.
Ainsi, le centre est vulnérable. Où se trouve-t-il, Humon ? Le technocentre.
Je te l'ai déjà dit.
Répète-le-moi, Humon.
Nous habitons la zone interstitielle où nous tissons les singularités comme un treillis de cristal, dans lequel nous stockons nos souvenirs et créons l'illusion de nous-mêmes à l'intention de nous-mêmes.
Les singularités. La zone interstitielle. Seigneur Jésus, tu veux dire que le technocentre est implanté dans le tissu du réseau d'Istrance lui-même, Humon ?
C'est évident. Comment pourrait-il être ailleurs ?
Dans le réseau lui-même ? Dans les mailles de singularité ? Le RETS est pour vous une sorte d'ordinateur géant ?
Non. Ce sont les infosphères qui sont notre ordinateur. Chaque fois qu'un humain a accès à son infosphère, nous avons la possibilité d'utiliser ces neurones à nos propres fins. 200 milliards de cerveaux, chacun avec ses milliards de neurones, cela fait pas mal de puissance de traitement.
L'infosphère est donc pour vous un moyen de nous utiliser comme un ordinateur géant ? Mais le technocentre proprement dit réside dans le réseau d'Istrance ? Dans l'espace situé entre les portes ?
Tu es très perspicace pour un mort-né mental.
Je m'efforce de concevoir la chose, mais j'ai du mal. Le réseau Distrance est le plus grand présent que le centre ait fait à l'humanité. Essayer d'imaginer le monde avant l'introduction du réseau Distrance, c'est comme essayer de l'imaginer avant le feu, avant la roue ou avant les vêtements. Aucun de nous, aucun humain, n'avait jamais envisagé l'existence d'un monde intermédiaire situé entre les portes. Le simple pas qu'il fallait accomplir pour sauter d'un monde à l'autre nous a toujours convaincus que les ésotériques sphères de singularité du centre se contentaient de pratiquer une déchirure dans le tissu de l'espace-temps. Je m'efforce maintenant d'imaginer le Retz tel qu'Humon le décrit avec son treillis complexe de fines mailles de singularité sur lesquelles les IA du technocentre se déplacent comme des araignées magiques, utilisant comme machines les milliards de cerveaux humains branchés chaque seconde sur l'infosphère. Rien d'étonnant à ce que les IA du centre aient autorisé la destruction de l'ancienne Terre au moyen de leur fameux trou noir en folie lors de la grande erreur de 38. La petite faute de calcul du groupe de Kiev, ou plutôt l'erreur délibérée des IA qui en faisaient partie, a marqué dans tout le Retz le début de la longue égire de l'humanité en lançant des vaisseaux d'ensemencement munis d'équipements Distrance en direction de 200 mondes et satellites à travers des distances de plus de 1000 années-lumière. Et avec chaque nouveau terminal, le technocentre grandissait. Il avait même probablement tissé son propre réseau Distrance. Notre passage sur l'ancienne Terre cachée en apporte la preuve. Mais au moment même où cette possibilité me frappe, je me souviens du vide étrange que j'ai constaté dans la métasphère, et je me rends compte que la plus grande partie du réseau extérieur au Retz est vide, non colonisée par les IA.
Tu as raison, Kitz. La plupart d'entre nous préfèrent résider dans un espace plus ancien et plus confortable.
Pourquoi ?
Parce que cela fait trop peur là-bas, et qu'il y a d'autres choses.
D'autres choses ? Tu veux dire d'autres intelligences ?
Quatz ! Le mot est trop gentil. Des choses, d'autres choses, des lions, et des tigres, et des ours.
Des présences étrangères dans la métasphère ? Tu veux dire que le centre reste dans les espaces interstitiels du réseau rétien, comme font les rats dans les murs d'une vieille maison ?
La métaphore est rudimentaire, Kitz, mais exacte. Et elle me plaît.
Est-ce que cette divinité humaine, ce futur dieu qui, d'après toi, a été créé, fait partie des présences étrangères auxquelles tu fais allusion ?
Non. Le dieu de l'humanité a évolué, évoluera un jour, sur un plan différent, dans un milieu différent.
Où ?
Si tu tiens à le savoir, racine carrée de GH sur C exposant 5 et de GH sur C exposant 3.
Qu'est-ce que le temps de Planck et la longueur de Planck ont à voir avec la question ?
Quatz ! Un jour, Humon demanda à... une lumière inférieure. « Sais-tu jardiner ?»« Oui, » répondit-elle. « Pourquoi les navets n'ont-ils pas de racines ?» demanda Humon à la lumière inférieure, qui ne put lui répondre. « Parce que, fit Humon, l'eau de pluie est abondante. »
Je médite un instant cela. Le koan d'Humon n'est pas trop difficile à comprendre maintenant que je commence à retrouver le sens des ombres qui entourent les mots. Cette petite parabole zen est pour Humon une manière de dire, non sans quelque sarcasme, que la réponse est du domaine de la science et de l'antilogique à laquelle, bien souvent, les explications scientifiques font appel. Comme l'enseignent Humon et d'autres maîtres, cela explique pourquoi l'évolution a donné un long cou à la girafe, mais pas pourquoi elle ne l'a pas donné à d'autres animaux. Cela explique aussi pourquoi l'humanité a eu accès à l'intelligence, mais pas pourquoi l'arbre qui pousse devant votre portail en a été privé. Les équations de Planck, cependant, sont plus déroutantes. Même moi, qui suis profane en la matière, je sais que les équations très simples qu'Humon m'a données sont une combinaison des trois constantes fondamentales de la physique. La gravité, la constante de Planck et la vitesse de la lumière. Les formules racine carrée de gh sur c exposant 3 et racine carrée de gh sur c exposant 5 représentent les unités quelquefois appelées longueur de Planck et temps de Planck, c'est-à-dire les plus petites régions de l'espace et du temps qui puissent être décrites avec cohérence. L'unité appelée longueur de Planck équivaut environ à 10 exposant moins 35 mètres, tandis que le temps de Planck vaut environ 10 exposant moins 43 secondes. C'est vraiment très petit et très bref. Mais c'est là, d'après Humon, que notre Dieu humain s'est développé, ou se développera un jour. Puis cela me vient avec la même force d'évocation visuelle et la même précision que pour le meilleur de mes poèmes. Humon veut parler du niveau quantique de l'espace-temps lui-même. Cette mousse de fluctuations quantiques qui assure la cohésion de l'univers et permet l'existence de galeries transversales dans le tissu distrans et de passerelles dans les mégatransmissions. C'est une ligne rouge impossible qui transmet des messages entre deux photons lancés dans des directions opposées. Si les IA du technocentre existent en tant que rats dans les murs de la maison de l'hégémonie, notre ex et futur dieu de l'humanité naîtra dans les atomes du bois, dans les molécules d'air, dans les énergies de l'amour, de la haine et de la peur, dans les mares de sommeil, et même dans la lueur qui brille dans l'œil de l'architecte. Je laisse échapper dans un souffle mental « Seigneur ».
Précisément, Keats, est-ce que toutes les personnes du temps ralenti sont aussi lentes ou bien as-tu l'esprit plus endommagé que les autres ?
Tu as dit à Brown et à mon homologue que votre intelligence ultime habitait les interstices de la réalité, héritant sa demeure de nous, ses créateurs, de la même manière que l'humanité a hérité son amour des arbres. Cela veut-il dire que votre Deus ex machina habitera le même réseau d'istrans que celui qui est occupé aujourd'hui par les IA du technocentre ?
Oui, Keats.
Qu'allez-vous devenir dans ce cas ? Que vont devenir les IA qui occupent en ce moment cet espace ? La voix d'Humon changea pour prendre un ton de tonnerre moqueur.
Pourquoi me faut-il vous connaître ? Pourquoi m'être apparu ? Pourquoi mon essence éternelle éprouve-t-elle l'effroi de voir et contempler ces horreurs nouvelles ? Saturne est tombé, dois-je tomber à mon tour ? Me faudra-t-il quitter ce havre de repos, ce berceau de ma splendeur, ce climat, ce luxe calme d'un bonheur de lumière, les pavillons cristallins, les temples purs, de tout mon lumineux empire ? Le voici désert et vide, inhabité de moi. Les flammes, la splendeur et la symétrie se dérobent à mes yeux. Je ne vois que du noir, la mort, et puis du noir.
Je reconnais ces paroles. Je les ai écrites. Ou plutôt, John Keats les a écrites il y a 9 siècles, lors de sa première tentative de description de la chute des Titans et de leur remplacement par les dieux de l'Olympe. Je me souviens très bien de cet automne 1818, de la douleur sans fin que me causait ma gorge perpétuellement enflammée depuis ma randonnée à pied en Écosse, et de la douleur encore plus grande provoquée par les fielleuses attaques contre mon poème Endymion dans les revues Blackwood's, Quarterly Review et The British Critic. Sans mentionner les toutes dernières souffrances de mon frère Tom aux prises avec sa maladie. Essayant de faire abstraction de la confusion qui règne dans le centre autour de moi, je lève la tête comme si j'essayais de découvrir l'équivalent d'un visage dans la masse énorme du monde. Lorsque l'intelligence ultime naîtra, les IA du niveau inférieur mourront ?
Oui.
Elle se nourrira de vos réseaux d'information de la même manière que vous vous êtes nourri de ceux des humains ?
Oui.
Et vous n'avez pas envie de mourir, n'est-ce pas, Humon ?
Mourir est aisé, en rire est difficile.
Pourtant, vous luttez pour survivre, vous, les stables. C'est cela, la vraie raison de la guerre intestine du centre ?
Une lumière inférieure demanda à Humon : quelle est la signification de l'arrivée de Daruma par l'ouest ? Humon répondit : on voit les montagnes au soleil.
Il m'est plus facile à présent d'interpréter les koans du mont. Je me souviens d'une époque, avant la résurrection de ma personnalité kitsienne, où j'apprenais encore sur les analogues de ses genoux. Dans la pensée élevée du centre, ce qu'un humain pourrait appeler le zen, les quatre vertus menant au nirvana sont 1. L'immuabilité, 2. La joie, 3. L'existence personnelle et 4. La pureté. Toute la philosophie humaine pourrait se réduire à des valeurs intellectuelles, religieuses, morales et esthétiques. Humon et les stables, eux, n'en reconnaissent qu'une seule, la valeur existentielle. Alors que les valeurs religieuses peuvent être relatives, les valeurs intellectuelles éphémères, les valeurs morales ambiguës et les valeurs esthétiques soumises à la subjectivité de l'observateur, la valeur existentielle d'une chose quelconque est infinie, d'où les montagnes au soleil. Et étant infinie, égale toutes les autres choses et toutes les vérités. Humon n'a pas envie de mourir. Les stables ont mis leur propre dieu et leur collègue Ia au défi de me raconter toutes ces choses, de me créer, de choisir Brown, Sol, Cassad et les autres pour le pèlerinage, de laisser filtrer certaines clés jusqu'à Gladstone et quelques autres sénateurs au fil des siècles pour que l'humanité soit avertie et aujourd'hui puisse entrer ouvertement en guerre avec le centre. Humon n'a pas envie de mourir. Humon, si le centre est détruit, est-ce que tu mourras ?
Il n'est nulle mort dans tout l'univers, nulle odeur de mort, mais la mort sera là. Pleure, pleure. Pour ce pâle oméga d'une race flétrie.
Les mots de nouveau sont les miens, ou presque. Ils sont tirés de ma seconde tentative épique de décrire la mort de divinité et le rôle du poète dans la lutte que mène le monde contre la souffrance. Humon ne mourrait pas si le siège d'Istrance du technocentre était détruit, mais l'avidité de l'intelligence ultime le condamnerait assurément. Où pourrait-il se réfugier si le centre ou le raid s'était détruit ? Des images de la métasphère me viennent à l'esprit, avec des paysages sans fin, tout en ombre, où des formes sombres se déplacent vers l'horizon factice. Je sais qu'Humon ne me répondra pas si je lui pose la question. Je lui en pose donc une autre. Les volages, que veulent-ils ?
Ce que veut Gladstone. La fin de la symbiose entre les IA et l'humanité.
En détruisant celle-ci ?
Évidemment.
Pourquoi ?
Nous vous avons asservi par l'énergie, la technologie, la verroterie et les objets de pacotille que vous n'auriez pu ni fabriquer ni comprendre. La propulsion Hawking aurait été à votre portée, mais le distrans, les émetteurs et récepteurs mégatrans, la mégasphère et le bâton de la mort. Jamais. Comme les Sioux pour les fusils, les chevaux et les couvertures, les couteaux et les perles, vous avez tout accepté avec reconnaissance, consommant votre perte. Mais comme l'homme blanc distribuant des couvertures contaminées par la variole, comme le négrier dans sa plantation ou dans sa Werkschutz der Rennschule Gustalfabrik, nous avons signé notre perte. Les volages veulent mettre fin à la symbiose en supprimant le parasite humanité.
Et les ultimistes, est-ce qu'ils acceptent de mourir, de céder la place à vos tribus voraces ?
Ils pensent ce que tu pensais ou que tu as fait penser à ton dieu de la mer philosophe.
Et là, Humon se met à réciter des vers que j'avais abandonnés sous le coup de la frustration, non pas parce que ce n'était pas de la bonne poésie, mais parce que je ne croyais pas totalement au message qu'il contenait. Ce message est adressé au Titan, condamné par Océanos, le dieu de la mer, qui sera bientôt détrôné. Il s'agit d'un péant à la gloire de l'évolution, écrit à l'époque où Charles Darwin avait 9 ans. Je l'entends dire les mots que je me rappelle avoir écrits un soir d'octobre, il y a 900 ans. Plusieurs mondes et plusieurs univers plus tôt. Mais c'est comme si je les entendais pour la première fois.
Vous que fureur consume et que colère étreint, vaincu, défiguré par les souffrances que vous bercez vous-même, barricadez vos sens, étouffez vos oreilles. Ma voix n'est pas soufflée à ranimer votre ire. Écoutez pourtant, vous autres qui le voulez bien, écoutez la preuve qu'il faut, de toute nécessité, vous résigner à courber la tête. Cette preuve que j'apporte sera pour vous grand réconfort si vous acceptez d'y saisir le réconfort du vrai. Nous tombons sous l'effet d'une loi de nature et non par la puissance de la foudre ou de Jupiter. Grand Saturne, tu as fort bien scruté cet univers d'atomes, mais par cette raison que tu en es le roi, aveuglé seulement par la toute-puissance, une avenue s'est trouvée cachée à tes yeux, qui m'a conduit de détour en détour à la vérité éternelle. Et d'abord, de même que tu ne fus pas le tout premier des pouvoirs, de même n'en es-tu pas le dernier. Il ne peut en être ainsi. Tu n'es pas l'origine et tu n'es pas la fin. Du chaos et de la nuit génitrice est issue la lumière, premier fruit de cette lutte intestine, de ce ténébreux ferment qui, pour des fins merveilleuses, mûrissait en soi-même. À l'heure de la maturité, survint la lumière, et la lumière, s'accouplant à son propre créateur, anima soudain la masse énorme de la matière du souffle de la vie. Ce fut l'heure précise où nos parents, le ciel et la terre, prirent forme et parurent. Puis toi-même, le premier-né, et nous, la race des géants, nous nous trouvâmes rois de splendides et nouveaux royaumes. À présent, voici le moment douloureux de la vérité, douloureux à qui le prend ainsi. Mais quel égarement! Car supporter tout le vrai en sa nudité et regarder les circonstances en face imperturbablement, c'est là la royauté suprême. Écoutez bien. De même que la terre et le ciel sont plus beaux, bien plus beaux que le chaos et l'ombre vide, autrefois souverain. De même que nous surpassons ce même ciel et cette même terre par l'aspect et la forme harmonieuse et pleine, par le vouloir, la liberté des actes, la fraternité et mille indices encore d'une plus pure vie. De même, sur nos talons, s'avance une perfection nouvelle, un pouvoir plus fort en sa beauté, né de nous, et voué à l'emporter sur nous, comme nous surpassons en splendeur les antiques ténèbres. Et nous ne sommes pas plus vaincus par elle que ne le fut par nous l'empire de l'informe chaos. Dites-moi, la terre grise se plaint-elle des altières forêts qu'elle a nourries, qu'elle nourrit encore, et qui sont bien plus qu'elle séduisantes? Peut-elle nier la suprématie des verts bocages? L'arbre va-t-il jalouser la colombe parce qu'elle roucoule et que ses ailes de neige lui permettent d'errer à loisir et de trouver son bonheur? Nous sommes pareils à ces bois, et nos belles ramures n'ont pas produit de rares, de pâles colombes, mais des aigles au plumage d'or qui, là-haut, planent sur nous de toute leur beauté et qui doivent régner en vertu de ce droit. Car c'est une loi éternelle que le premier en beauté soit le premier en puissance. Accueillez donc la vérité et qu'elle soit votre baume. »
Très joli, mais y crois-tu ? J'adresse cette pensée à Humon, qui me répond :
Pas un seul instant.
Les ultimistes y croient ?
Oui.
Et ils sont prêts à périr pour laisser la place à l'intelligence ultime ?
Oui.
Il y a quand même un problème, peut-être trop évident pour être mentionné, mais que je mentionnerai tout de même. Pourquoi faire cette guerre si vous savez d'avance qui en est le vainqueur, Humon ? Tu dis que cette intelligence ultime existe dans le futur et qu'elle est en guerre avec la divinité humaine, qu'elle vous envoie même quelques fragments choisis du futur dont vous faites profiter l'hégémonie. C'est donc que les ultimistes vont gagner. Alors, pourquoi vous donner la peine de faire la guerre ?
Quatz !
Je te prends sous ma protection. Je crée pour toi la meilleure personnalité récupérée, imaginable. Je te laisse te promener parmi les humains, en temps ralenti, pour parfaire ta trempe. Mais tu es toujours aussi morné qu'avant.
Je reste un bon moment perdu dans mes réflexions. Il y a plusieurs futurs ?
Une lumière inférieure demanda un jour à Humon. Y a-t-il plusieurs futurs ? Humon répondit, un chien a-t-il des puces ?
Mais celui dans lequel l'IU devient prépondérante est le plus probable.
Oui.
Ce qui n'empêche pas qu'il existe un futur probable où l'IU apparaît, mais se fait repousser par la divinité humaine ?
Il est réconfortant de constater que même un mort-né est capable de penser.
Tu as dit à Brand que cette conscience humaine, je n'aime pas employer le mot ridicule de divinité, était d'essence trine.
Intellect, empathie, espace qui lit.
Espace qui lit ? Tu veux parler de l'espace et du temps de Planck ? De racine carrée de GH sur C exposant 3 et de racine carrée de GH sur C exposant 5 ? De la réalité quantique ?
Méfie-toi, Keats. Penser pourrait devenir chez toi une habitude.
Et c'est la partie empathie de cette trinité qui s'est réfugiée dans le passé afin d'éviter la guerre avec votre IU ?
Exact. Notre IU et votre IU ont envoyé dans le passé le Gritch pour la retrouver.
Notre IU ? Tu dis que l'IU humaine a aussi envoyé le Gritch ?
Elle l'a permis. Empathie est une chose extérieure et plus ou moins inutile, un appendice vermiforme de l'intellect, mais qui sert d'odorat à votre IU humaine. Nous nous servons de la souffrance pour la débusquer, d'où l'arbre.
Quel arbre ? L'arbre aux épines du Gritch ?
Naturellement. Il émet des ondes de douleur, mégatrans et interstitielles, comme les ultrasons d'un sifflet aux oreilles d'un chien ou d'un dieu.
Je sens l'analogue de mon propre corps qui vacille, tandis que toutes ces révélations m'imprègnent. Le chaos qui gît derrière le champ de force ovoïde du mont est maintenant impossible à imaginer. Comme si le tissu même de l'espace était déchiré par des mains géantes. Le centre est sans dessus-dessous. Humon, qui est l'IU humaine de notre temps ? Où se cache cette conscience ?
Il faut que tu comprennes, Keats, que notre seule chance était de créer un fils de l'homme et fils de la machine hybride. Il fallait rendre ce refuge suffisamment tentant pour que l'empathie traquée le préfère à tous les autres. Il fallait une conscience aussi divine que ce que l'humanité a produit de meilleur depuis 30 générations. Une imagination capable de transcender et l'espace et le temps, et de former, dans cet esprit de paix et d'union, un lien entre deux mondes qui puisse permettre au monde d'exister pour les deux.
Dis-moi qui c'est, merde ! Qui est-ce, Humon ? Cesse de jouer aux devinettes avec moi, informe bâtard !
De qui s'agit-il ?
Par deux fois, tu as refusé cette divinité, Keats. Si tu refuses une dernière fois, tout s'arrête là, car le temps manque. Va ! Va mourir pour vivre. Ou vis encore un peu et meurs pour nous tous. De toute manière, Humon et les autres en ont fini avec toi. Va-t'en !
Sous le choc et l'incrédulité, je tombe, ou bien je suis expulsé, et je vole à travers le technocentre comme une feuille emportée par le vent, tournoyant dans la mégasphère sans guide ni direction, m'enfonçant dans les ténèbres, hurlant des obscénités aux ombres, émergeant finalement dans la métasphère. Là, tout n'est qu'étrangeté, vastitude, terreur et obscurité, avec une seule lueur de feu de camp qui brûle tout en bas. Je plonge vers elle, agitant les bras pour progresser dans une viscosité sans forme. « C'est Byron qui se noie, me dis-je. Ce n'est pas moi !» Sauf si l'on considère que l'on peut se noyer dans son propre sang où baignent des morceaux de poumons effilochés. Mais je sais maintenant que j'ai le choix. Je peux choisir de vivre et de rester mortel, non pas cybride mais humain, non pas empathie mais poète. Nageant contre un courant très fort, je descends dans la lumière.
Hunt ! Hunt !
Le conseiller de Gladstone accourt en trébuchant, le visage hagard et alarmé. C'est toujours la nuit. Mais la fausse lumière qui précède l'aube caresse déjà les carreaux de la fenêtre et les murs.
« Mon Dieu !»
s'écrie Hunt en me regardant, horrifié. Je suis son regard, et je vois les draps et ma chemise de nuit imbibés d'un sang rouge vif, artériel. Ma toux l'a réveillé. L'hémorragie m'a ramené dans mon lit.
« Hunt !»
Je laisse retomber ma tête sur l'oreiller, trop faible pour bouger même le bras. Il s'assoit au bord du lit, pose son bras sur mon épaule, me prend la main. Je sais qu'il sait que je vais mourir bientôt.
« Hunt, lui dis-je à voix basse, j'ai des choses à vous raconter. Des choses étonnantes. »
Il me fait taire.
« Plus tard, Severn, reposez-vous. Je vais vous faire un peu de toilette. Vous m'en raconterez ça après. Nous avons le temps. »
Je fais un effort pour me redresser, mais ne réussit qu'à me raccrocher à son bras. Mes petits doigts crispés sont contre son épaule. Je murmure, tandis qu'un bouillonnement monte lentement dans ma gorge, analogue à celui de la fontaine en bas.
« Non, Hunt, plus tellement de temps maintenant. Plus du tout. »
Je sais, en cet instant d'agonie, que je ne suis pas le support élu de l'IU humaine. Ce n'est pas moi qui contribuerai à l'unification des IA et de l'esprit humain. Je ne suis pas l'élu. Je ne suis qu'un poète qui se meurt loin de chez lui.